Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour Bernard.
Bonjour Dominique.
Bonjour chers amis auditeurs et bienvenue avec nous pour étudier cette 9e leçon d'école du sabbat. Leçon qui couvre la semaine du 22 au 28 août 2009. Et le titre Bernard est le suivant.
Croire au Fils de Dieu.
Le verset à mémoriser et se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 5.
Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et quelques questions maintenant.
Alors, les questions clés, quelles promesses de victoire avons-nous? Que veut dire Jean quand il évoque l'eau et le sang? Quelles raisons avons-nous de croire? Que dit Jean à propos de la divinité du Christ et à propos de la promesse de vie éternelle?
Les opinions concernant l'identité de Jésus ont varié depuis l'Antiquité et elles évoluent encore aujourd'hui. Certains font la différence entre le Jésus biblique et le Jésus historique, avançant que les deux n'avaient peut-être pas grand-chose en commun. Le Jésus historique était probablement un homme ordinaire, très sensible au spirituel, mais rien de plus. Il n'était certainement pas le Fils de Dieu ressuscité des morts. D'autres pensent que Jésus était juste un révolutionnaire politique qui cherchait de manière insidieuse à renverser l'Empire romain.
Nous pouvons être tentés de considérer ce sujet comme relevant du simple débat intellectuel et philosophique. Mais la personne qu'était Jésus et ce qu'il disait de lui-même concerne tout être humain. Notre opinion à son sujet influence profondément notre relation avec Dieu, notre approche du plan du salut et l'assurance que nous avons d'être sauvés. C'est pourquoi Jean traite de ce sujet dans ses lettres.
Eh bien, le dimanche 23 août 2009, nous avons pour thème
« Croire en Jésus et en la victoire ».
Et un premier texte nous est proposé, 1 Jean chapitre 5 et verset 1er.
« Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui fait naître, aime aussi celui qui est né de lui. »
Après avoir étudié l'enseignement de Jean sur l'amour fraternel, nous abordons maintenant le thème de la foi en Jésus, Christ Messie et Fils de Dieu. En fait, ces deux thèmes, la foi et l'amour, s'entremêlent dans les premiers versets du chapitre 5.
Jean désire que ses auditeurs croient que Jésus est le Christ, car ainsi ils sont nés de Dieu. Ils aiment Dieu, ils s'aiment les uns les autres et gardent les commandements. Ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu sont également vainqueurs du monde.
Au cours de l'histoire, le combat que les chrétiens devaient livrer pour vaincre le monde a été parfois interprété de manière littérale, c'est-à-dire comme un conflit militaire, ce qui est faux. Nulle part dans les Écritures, on ne lit que les chrétiens sont appelés à partir en croisade pour contraindre d'autres hommes à se convertir. Nulle part dans le Nouveau Testament, on ne lit que telle ou telle nation est assimilée au royaume de Dieu et qu'à ce titre, il lui faut se défendre et défendre son territoire par la violence.
Le combat que les chrétiens doivent livrer est un combat spirituel. Dans l'ensemble de ses écrits, Jean affirme que ce n'est pas par la violence et la force physique, mais par la foi que l'on remporte la victoire. Et la foi se manifeste par la vie que l'on mène. Les textes que nous allons lire à présent nous parlent de conquête et de victoire. Et nous allons voir ce que nous apprennent ces textes concernant ces promesses. Commençons avec l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33.
Je vous ai parlé ainsi, pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Nous avons encore quelques autres textes. Tout d'abord Apocalypse chapitre 2 et le verset 7.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Et voyons le verset 11.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Nous continuons toujours dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 5.
Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et prenons également le verset 21.
Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. »
Jésus-Christ est le conquérant suprême. Parce qu'il a remporté la victoire, ses fidèles sont eux aussi capables de vaincre. Dans une certaine mesure, ils possèdent déjà la victoire que Christ a remportée pour eux. Les vainqueurs reçoivent de Dieu de magnifiques promesses. Ils n'ont plus à être esclaves du péché, car en Jésus, et par la vie nouvelle qu'ils ont en lui, ils sont les serviteurs du Seigneur et non plus ceux de Satan, leur ancien maître.
Nous sommes maintenant au lundi 24 août 2009 et cette étude aura pour titre
« Ce Jésus en qui nous croyons ».
Un premier texte nous est déjà proposé dans 1 Jean chapitre 5, les versets 6 à 8.
« C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. » Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord.
Après avoir souligné l'importance de la foi en Jésus, Messie et Fils de Dieu, Jean poursuit en montrant à ses lecteurs qui est le Christ. Il leur dit entre autres qu'il est venu par l'eau et le sang. Qu'est-ce que cela signifie ?
Dans 1 Jean, seuls les versets d'aujourd'hui font mention de l'eau. Ce mot revient pourtant assez souvent dans l'évangile de Jean et dans l'Apocalypse. D'après le contexte, l'eau dont parle Jean doit plus ou moins être en rapport avec Jésus et sa première venue. Et elle constitue l'un des trois éléments attestant que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu.
L'expression « du sang et de l'eau » apparaît dans Jean 19, verset 34, à propos de la mort de Jésus, mais il ne s'agit pas, semble-t-il, de l'eau mentionnée par l'apôtre dans 1 Jean 5, 6 à 8. Au début de l'évangile de Jean, l'eau est plutôt associée au baptême. Et c'est cette idée qui paraît être à l'arrière-plan de 1 Jean. Jésus est venu en tant que Dieu incarné. Il a commencé son ministère terrestre en se faisant baptiser d'eau et il l'a achevé en versant son sang sur la croix.
Apparemment, le mot « eau » désigne donc le baptême de Jésus et le mot « sang » sa mort sur la croix. Ainsi, le baptême et la crucifixion nous révèlent qui était Jésus et ce qu'il devait accomplir pour nous. Et dans les deux cas, manifestation divine et réaction humaine ont témoigné qu'il était bien le Fils de Dieu.
Les versets d'aujourd'hui sont aussi en rapport avec les erreurs enseignées par les antichrists. En effet, si comme ces derniers le prétendaient, Jésus n'était ni le Messie ni le Fils de Dieu, cela signifierait que la mort expiatoire du Fils de Dieu n'est pas nécessaire au salut et que le Fils de Dieu n'est pas mort sur la croix pour nous racheter.
On aboutirait ainsi à une compréhension complètement différente du salut et de la divinité. La rédemption se ferait par le biais de la connaissance et non grâce à la croix. C'est pourquoi Jean voulait que les croyants sachent exactement qui était Jésus et ce qu'il avait fait pour eux par sa vie et sa mort. Grâce à cela, ils ne se laisseraient pas égarer par de faux enseignements.
Méditons maintenant sur ces quelques lignes. Tout d'abord, l'eau et le sang. Réfléchissons à ces deux images et à la façon dont elles s'appliquent à Jésus. Comment ces deux éléments doivent-ils jouer un rôle dans notre vie ?
En d'autres termes, qu'est-ce que notre baptême, c'est-à-dire l'eau, a signifié pour nous ? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes ? Quels changements sont survenus dans notre vie ? De même pour le sang, que signifie cette notion de sang versé ? Du moins en ce qui nous concerne en tant que chrétiens.
Eh bien, des questions à réfléchir, bien sûr. Ceci nous amène au mardi 25 août 2009. Et là, nous allons voir...
Jésus est le témoignage de Dieu.
Les deux premiers témoins de la divinité de Jésus sont l'eau et le sang. Le troisième est le Saint-Esprit. D'après l'évangile de Jean, Jésus a en effet annoncé que le Saint-Esprit rendrait témoignage de lui.
Pourquoi ces témoins sont-ils nécessaires ? Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait 2 à 3 témoins pour confirmer un fait tel qu'il nous est décrit dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Jean, lui, veut montrer que les arguments en faveur de la divinité de Jésus reposent sur de solides fondements et que nous avons de bonnes raisons de croire.
Lisons donc maintenant ce que dit Jean dans 1 Jean, chapitre 5 et les versets 9 et 10. Et en quoi veut-il que nous croyions ? Alors voici ces textes, 1 Jean 5, versets 9 et 10.
Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils.
Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
C'était les versets 11 et 12.
Pour Jean, l'existence de témoins ou de divers témoignages sur Jésus est importante. Dans son évangile, il en mentionne plusieurs autres. Le témoignage de Jean-Baptiste, celui de Jésus lui-même, celui de la Samaritaine, le témoignage des œuvres accomplies par Jésus et celui des Écritures, le témoignage de Dieu le Père, du peuple qui a assisté à la résurrection de Lazare, du Saint-Esprit et celui de l'apôtre Jean lui-même. Impressionnant. Jean cherche à nous montrer que la foi en Jésus est bien fondée.
L'expression « le témoignage du Père » a été comprise de diverses manières. Elle semble toutefois prendre tout son sens quand on la relie au triple témoignage mentionné dans les versets que nous avons lus, car ce dernier constitue fondamentalement le témoignage de Dieu.
Jean dit que si nous sommes prêts à accepter le témoignage d'êtres humains, nous devrions être d'autant plus disposés à accepter celui de Dieu lui-même. Et de fait, nous prenons souvent au pied de la lettre ce que les gens nous disent, que ce soit par écrit ou à la télévision, même si nous n'avons pas de raison valable de les croire.
Nous devrions à plus forte raison accepter le propre témoignage de Dieu et croire en Jésus tel qu'il nous l'est décrit dans le Nouveau Testament. Dieu est fidèle et vrai, c'est ce qui nous est affirmé dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Si nous n'acceptons pas son témoignage, alors nous proclamons que c'est un menteur. Et là, c'est une très grave accusation.
Poursuivons donc cette étude et nous arrivons au mercredi 26 août 2009. Et là, nous allons voir...
La question de la Trinité.
Selon les versions bibliques, on peut trouver dans ce passage de 1 Jean chapitre 5 et versets 7 et 8 que nous avons lu récemment, le passage suivant qui constitue un ajout tardif et qui ne figure pas dans les manuscrits originaux. Dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre.
Les biblistes s'accordent pour dire que cette déclaration n'est pas authentique et qu'elle a sans doute été ajoutée pour appuyer la doctrine de la Trinité. Bien entendu, les textes bibliques ne devraient jamais être retouchés, et cela pour de multiples raisons. L'une des plus importantes étant qu'on pourrait se mettre à douter de la fiabilité des Écritures dans leur ensemble, c'est-à-dire de toute la parole de Dieu.
Le fait est que, même sans ce rajout, la doctrine de la Trinité est solidement établie par les écrits de Jean. Comme les autres auteurs du Nouveau Testament, ils croient que Dieu est un et que Jésus et le Saint-Esprit sont Dieu. La doctrine de la Trinité est fondamentale si l'on veut concilier l'unité de Dieu avec la divinité Père, Fils et Saint-Esprit.
Jean fait de puissantes déclarations sur la divinité de Jésus-Christ. Lisons, à travers les textes suivants, quels enseignements cela apporte à son sujet. Prenons tout d'abord Jean, chapitre 1, versets 1 et 14.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous poursuivons Jean 8 et verset 58.
Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Continuons avec Jean chapitre 10, verset 30.
« Moi et le Père, nous sommes un. » Maintenant, 1 Jean 2, verset 23.
« Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. » Et terminons avec 1 Jean chapitre 5, verset 20.
« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. »
Même si, d'après ces textes, la divinité de Jésus ne peut être remise en question, dans le passage que nous étudions cette semaine, Jean ne cherche pas à asseoir la doctrine de la Trinité. Là n'est pas son propos. Il veut plutôt parler de la foi en Jésus en tant que Fils de Dieu et du témoignage rendu au monde à son sujet.
Voici quelques lignes qui nous sont invitées maintenant pour notre méditation et notre réflexion. En gardant à l'esprit que Jésus est le Fils de Dieu, revoyons les dernières scènes de sa vie jusqu'à la croix. Ce faisant, n'oublions pas que cette personne était aussi Dieu, le Créateur. Réfléchissons aux implications de ces deux vérités et pourquoi peuvent-elles transformer notre vie.
Nous voici à la journée du jeudi 27 août 2009, et le thème en est
« Croire en Jésus et quelles sont ses conséquences ?»
Prenons tout d'abord le passage de 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12.
« Voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. »
Dieu a fait à l'humanité un don merveilleux, la vie éternelle. Mais ce don ne nous est offert qu'en Jésus-Christ. Comment le recevoir ? En acceptant le témoignage de Dieu concernant son Fils, c'est-à-dire en croyant en Jésus.
Dans son évangile, lisons ce qu'enseigne l'apôtre Jean concernant la vie éternelle. Et un premier texte bien connu, Jean 3, verset 16.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Continuons avec Jean, chapitre 3, verset 36.
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. » Mais la colère de Dieu demeure en lui. Et un autre texte, Jean chapitre 5 et verset 24.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
L'exposé de Jean sur la foi en Jésus, sur son identité et sur les raisons qui nous permettent d'accepter le témoignage de Dieu n'est pas un exercice de rhétorique. Son objectif est clair et concret, trouver la vie éternelle dans le Fils de Dieu. Ses adversaires, ceux qui remettaient en question la divinité ou l'humanité du Christ, ou encore qui cherchaient à séparer le divin de l'humain, ne croyaient donc pas en Jésus au sens biblique du terme. Et parce qu'ils refusaient de croire au Jésus des Écritures, ils n'avaient pas la vie éternelle. Même s'ils la revendiquaient, même s'ils estimaient posséder des connaissances supérieures, tout cela n'avait aucune valeur.
La vie éternelle n'est possible qu'en Jésus-Christ. Jean déclare ouvertement que ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas la vie, tandis que ceux qui ont Jésus possèdent la vie éternelle. Ce sont là des paroles très fortes, remplies d'incroyables implications pour l'humanité tout entière. Il n'est donc pas surprenant que la question du salut soit si essentielle. Il s'agit littéralement d'une question de vie ou de mort, bien plus même, de vie éternelle ou de mort éternelle.
Réfléchissons donc maintenant avec quelques lignes qui nous sont proposées. Qu'en est-il des personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre présenter l'Évangile avec clarté? Sont-elles automatiquement perdues? En réfléchissant à la réponse, n'oublions pas de prendre en compte l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. Poursuivons donc avec la journée du vendredi 28 août 2009.
Et pour aller plus loin, il nous est proposé quelques passages d'Ellen White dans Message choisi.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ce que dit Jean chapitre 1, verset 4. Il n'est pas question ici de la vie physique, mais de l'immortalité, de la vie appartenant exclusivement à Dieu. La parole qui était avec Dieu et qui était Dieu possède cette vie. La vie physique est prêtée à chaque individu. Elle n'est pas éternelle ou immortelle, car Dieu qui la donne la reprend. L'homme n'est pas le maître de sa vie, mais la vie du Christ n'est pas empruntée. Personne ne peut la lui ôter.
Jean nous dit « Je la donne de moi-même ». Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Cette vie n'est pas inhérente à l'homme. Celui-ci ne peut l'obtenir que par le Christ. Il ne peut la gagner. Elle lui est accordée comme un don gratuit, pourvu qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la source de vie ouverte pour le monde.
Et plusieurs lignes sont à méditer maintenant pour terminer cette semaine. Jean parle des témoignages que nous avons reçus à propos de Jésus. Qu'en est-il de ceux que nous-mêmes donnons au monde?
Certes, nous possédons la promesse de la vie éternelle, mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour nous? Quelle influence cela a-t-il sur notre vie ici et maintenant? En quoi notre vie est-elle différente maintenant que nous avons cette promesse?
Alors qu'il y a tant en jeu, la vie ou la destruction éternelle, pourquoi nous laissons-nous si facilement prendre par les choses de ce monde qui, nous le savons pourtant, ne durent pas et ne peuvent ni nous satisfaire ni nous donner la vie éternelle? Quel est donc le secret pour parvenir à nous libérer de l'emprise du monde? Et comment aider la personne qui n'arrive pas à se détacher du monde? Ainsi s'achève donc cette semaine d'études.
Et nous vous disons à très bientôt.
À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.